Mes chers amis et camarades, avant de passer la parole à notre camarade Nathalie Arthaud, je voudrais vous dire quelques mots sur la situation locale. Comme partout dans le pays, ce qui marque la situation des travailleurs, c'est la hausse continue du chômage. Le taux de chômage atteint, ainsi selon les statistiques, plus de 10% de la population en Haute-Saône. Il n'y a pas besoin de statistiques pour s'en rendre compte des ravages provoqués par le chômage qui frappe dans des quartiers populaires comme ici à Montmarin. Cette progression du chômage n'a rien d'un phénomène naturel. C'est la conséquence des choix du patronat, appuyés par ceux du gouvernement. Cette semaine, la fermeture de l'usine Carpenter à Luxeuil, prévue au 31 décembre prochain, a été confirmée avec 41 licenciements et des travailleurs qui se retrouveront dans une cellule dite de reclassement qui n'est en fait que l'antichambre du chômage. Cette entreprise fait partie d'un groupe multinational, Carpenter, un des principaux fabricants de formes en mousse de polyuréthane pour l'automobile, les matelas, le bâtiment. Carpenter exploite 7000 travailleurs et possède 7 usines en France. Quand les travailleurs ont appris la nouvelle, le 1er juillet, 15 jours auparavant, il était encore question à Luxeuil d'augmenter les horaires à 45 heures, tellement il fallait produire. Après avoir bien pressé le citron, usé et abusé du recours aux intérimaires, la direction de Carpenter France prétend que l'usine est déficitaire. Eh bien qu'il le prouve, qu'il montre les comptes non seulement de l'entreprise de Luxeuil, mais ceux de l'ensemble du groupe et de leurs actionnaires. On connaît trop cette rengaine où les patrons prétendent que les usines ne sont pas rentables, alors que leurs actionnaires sont de riches familles bourgeoises qui ne savent pas quoi faire de leur fortune. Si ce n'est jouer à la bourse ou dans des spéculations hasardeuses comme celles qui ont provoqué la crise économique actuelle, alors on peut parier que c'est uniquement pour épaissir le matelas de leurs profits que les actionnaires de Carpenter ferment cette usine avec la même désinvolture qu'ils ferment leur pic-clac. Cette rapacité au gain est la même dans toutes les entreprises. Elle a la même conséquence, un chômage massif dont sont victimes les classes populaires. Regardez ce qui se passe chez le principal employeur de la ville, l'usine Peugeot. La direction de Peugeot Vesoul se flatte de vouloir embaucher des personnes ici, enfin 95 personnes d'ici la fin de l'année, et d'en avoir embauché 90 depuis le début de cette année. Mais ce qu'elle ne dit pas, c'est que les effectifs en CDI ont diminué de plus de 400 en 10 ans. Ce qu'elle ne dit pas non plus, c'est qu'elle a fermé l'année dernière l'autre centre de pièces détachées à Melun, où travaillaient 400 salariés. Et ce qu'elle oublie de dire aussi, c'est qu'il y a un bon millier d'intérimaires sur les 3300 qui font tourner l'usine de Vesoul. Des intérimaires qui seront débarqués sans un bruit, sans remous, sans même annoncer de suppression d'emplois si les commandes venaient à baisser. Alors, quand nous parlons de la nécessité de partager le travail entre tous, cela veut dire l'exigence d'embaucher tous les intérimaires immédiatement en CDI. Et si les commandes venaient à diminuer, il suffirait de travailler moins, moins vite, moins longtemps, tout en maintenant l'intégralité des salaires. Bien sûr, cela représente un coût, mais les actionnaires ont largement les moyens de faire face à cette dépense. Comme l'a déclaré Varin, le groupe PSA dispose de 11 milliards de profits accumulés. Même s'il n'emploie pas ce terme, mais préfère évoquer 11 milliards, et je le cite, de sécurité financière. Sans compter que le principal actionnaire, la famille Peugeot, a accru sa fortune l'an dernier de 2 millions par jour. Sans rien faire, elle, que d'avoir la chance d'être née dans une famille bourgeoise. Mais ces millions ne viennent pas de rien. Ils sont produits par l'accélération des cadences, charges de travail de tous les salariés du groupe. Chaque tendinite, chaque dos abîmé avant l'âge, chaque travailleur qui pète les plombs, comme on dit, parce qu'il n'en peut plus des rythmes de travail, est une part de ces millions que les grands bourgeois comme les Peugeot accumulent sur l'exploitation des travailleurs. Et ils nous promettent que cela va encore continuer en pire. Ainsi, au salon de l'automobile de Francfort, évoquant la crise financière, Varin, le PDG de PSA, a tenu à annoncer clairement la couleur, déclarant, et je le cite, « Aujourd'hui, il faut que le groupe accélère ses réductions de coûts », et il a précisé en identifiant les sureffectifs. Pour parler plus clairement, il ne sait pas où et s'il y a des sureffectifs, mais il va s'employer à la direction de PSA pour les trouver. Voilà le boulot pour lequel Varin est payé 9 000 €. Attention, pas par mois, mais par jour. La déclaration de Varin est une véritable déclaration de guerre aux travailleurs et à l'emploi. Car il ne fait aucun doute que les fermetures de sites se profilent, pas parce que les commandes de voitures diminuent, mais tout simplement pour faire travailler encore plus ceux qui garderont leur emploi. En mai dernier, la CGT avait révélé que PSA avait dans ses cartons le projet de fermer 3 de ses usines en Europe, dont celle d'Aulnay-sous-Bois en Seine-Saint-Denis. Et à ce propos, Varin s'en est à peine caché en déclarant, toujours à Francfort, et je le cite, « La fuite nous a obligés à en parler avant le moment choisi ». Au moment où la CGT avait révélé le projet secret de la direction de PSA, Varin prétendait qu'il ne s'agissait que d'un document de travail abandonné depuis. Alors oui, partager le travail entre tous, en gardant ouvertes toutes les usines, en embauchant tous les intérimaires du groupe, car à côté des 1000 de Vesoul, il y en a 2000 à Sochaux et autant à Mulhouse. C'est l'objectif que les travailleurs devront mettre en tête des luttes à mener pour faire valoir le droit à la vie. À l'Alstom Belfort, je travaille dans la division transport ferroviaire. Nous y fabriquons des TGV, des locomotives pour le fret, et sur d'autres sites de la division, des rames de train de banlieue, de métro. À l'Alstom également, les actionnaires augmentent leurs profits en supprimant des emplois et en baissant les temps de fabrication. Il nous faut produire toujours plus en étant toujours moins nombreux. Un plan de 1380 licenciements dont la fermeture d'une usine en Italie est sur les rails. Dans la division énergie d'Alstom à Belfort, la direction veut fermer l'atelier des ailettes de turbines où 70 emplois seront ainsi supprimés. Au total, une centaine d'emplois vont être liquidés dans cette division qui fait partie d'un plan de 4000 suppressions d'emplois dans les usines en Europe. À Belfort, la direction promet de reclasser ceux dont les postes sont supprimés et qui ne pourront pas partir en retraite amiante, entre autres. Où seront ces reclassements? Quel poste? Avec quel salaire? Aucune garantie n'a été donnée aux travailleurs, et pour cause. Les syndicats ont appris, par une fuite, qu'Alstom a dans ses tuyaux 250 destructions d'emplois qui vont encore s'ajouter à ses encours. Alors continuer à détruire des emplois, fermer des ateliers, à ne pas remplacer ceux qui partent ou sont poussés à le faire, c'est de toute façon contribuer à aggraver le chômage. C'est autant d'emplois que des jeunes ne peuvent pas occuper. Sur les profits d'Alstom, 1,2 milliard d'euros l'an dernier. Les actionnaires se sont octroyés royalement 360 millions de dividendes, à commencer par le principal, Bouygues, qui en a empoché le tiers, soit 120 millions. On a appris que Bouygues vient d'offrir à sa femme un énorme yacht, un palace flottant de 66 millions. Et pour lui-même, un jet privé très haut de gamme, dont le prix catalogue est de 34 millions d'euros. Comme quoi, la crise, ce n'est vraiment pas la même chose pour tout le monde. Voilà comment vivent ceux qui nous imposent de travailler plus, qui nous bloquent les salaires, et en réalité, ils nous les baissent du fait de la hausse incessante des prix. Voilà comment vivent ceux qui imposent une fraction des travailleurs de survivre au chômage, voire au RSA. Voilà comment vivent ceux qui affirment que les anciens, après toute une vie de travail, doivent se contenter de retraites de misère. Alors oui, il serait tout à fait légitime, et il y a les moyens, pour que les salaires, les allocations et les pensions non seulement augmentent, mais suivent automatiquement la hausse des prix, qu'ils soient indexés sur la hausse des prix, ce qui s'appelle l'échelle mobile des salaires. Les capitalistes, les banquiers et les classes riches sont très bien soutenus par le gouvernement. PSA a reçu un prêt de 3 milliards du gouvernement au moment de la crise. La prime à la casse, qui leur a permis de vendre plus de voitures, les multiples aides, dégrèvements fiscaux, allègements de cotisations, c'est de l'argent public qu'ils empochent. Alstom a ainsi bénéficié en 2010 d'une réduction d'impôts de 66 millions d'euros en créant une nouvelle filiale avec l'engagement de ne pas supprimer d'emplois existants, de ne pas supprimer d'activités jusqu'en 2014. 4 mois plus tard, Cron, le PDG d'Alstom, annonçait son plan dont je viens de parler. Mais toutes ces aides aux grandes entreprises sont autant de moyens pour les services publics, enfin autant de moyens en moins pour les services publics. Ce sont en fait des moyens en moins pour les classes populaires, car les services publics compensent un peu les écarts de revenus. Les 16 000 postes supprimés dans l'éducation nationale, ajoutés aux dizaines de milliers depuis 2002, cela se traduit au Haute-Saône, comme partout ailleurs, par de moins en moins d'enfants de moins de 3 ans en école maternelle. Et c'est seulement grâce à la détermination des parents, des enseignants soutenus par la population et les élus de Ronchamp, qui avaient manifesté nombreux depuis le printemps et qui ont remis ça dès la rentrée, qu'une classe de 22 tout-petits à Ronchamp, ville très pauvre, a été ouverte et n'a pas disparu. Des classes de 30 à plusieurs niveaux, en primaire, sans aide et soutien, pour ceux qui ont le plus de difficultés, c'est une situation qui tend à se généraliser. Des classes de plus de 30 en collège, 37, 38, voire 40 en lycée, peu d'établissements y échappent. Et tant pis si les salles ne peuvent même pas toujours contenir tous les élèves, si les travaux pratiques doivent se faire avec des acrobaties où la sécurité ne peut pas toujours être assurée. C'est le cas au lycée de Lure, pour ne prendre qu'un exemple. Et après, on va nous faire du cinéma sur la priorité à l'éducation des enfants aux problèmes d'incivilité à l'école. Mais ils se moquent de nous, ces incendiaires qui crient au feu. Dans la santé, nous avons en Haute-Saône l'illustration de la régression en matière d'accès aux soins dont est victime l'ensemble de la population. L'hôpital qui vient d'être construit à Vesoul est le résultat de la fusion des hôpitaux de Lure et Luxeuil avec celui de Vesoul. Cette fusion a été précédée à Lure et Luxeuil de la fermeture des deux maternités, la fermeture de tous les services de chirurgie, de réanimation, de cardiologie et de la réduction des urgences à des accueils fermés la nuit entre minuit et 6 heures du matin. En même temps, les services de secours et les SMUR étaient ainsi rationnés. Ces économies sont criminelles. Le député maire UMP de Vesoul, Alain Joyandet, approuve bien sûr toute cette politique gouvernementale qui aboutit au saccage du secteur public et fait la part belle au secteur privé. Au total, dans le public, la construction du nouvel hôpital de Vesoul aboutit à une diminution de 300 lits et la suppression de 130 postes. Des infirmières, aides-soignantes, qui manquent cruellement dans tous les services et établissements du département, cela ne dérange pas la droite ni Joyandet, qui lui, en tant que secrétaire d'État, dans le gouvernement Sarkozy-Fillon, s'est rendu en Martinique dernièrement en jet privé à 116 000 euros l'aller-retour pour bavarder de l'aide à apporter à Haïti après le tremblement de terre. Mais combien d'abris, de fortunes, de médicaments, d'eau potable aurait-on pu acheter pour la population pauvre d'Haïti rien qu'avec le prix du voyage de Joyandet aux Antilles? Ce n'est sûrement pas le problème de Joyandet, propriétaire des éditions Comtoises, des journaux de presse de Vesoul et la presse de Gré, d'une imprimerie à Auxon, d'une société florissante, Mediatour, qui fait du commerce et de la location de bateaux de plaisance. Cet homme de droite mène la politique que lui commandent ses véritables patrons, la grande bourgeoisie, qui est de siphonner les fonds publics pour les comptes des classes riches. Dans tous les services publics, la politique du gouvernement se traduit par des réductions d'effectifs et un service dégradé pour la collectivité. Regardez ce qui se passe à l'ONF, l'Office national des forêts. En juillet dernier, le cadre responsable de l'unité de Luxeuil s'est suicidé. C'était le 4e suicide en moins d'un mois. Pour les ouvriers de l'ONF, 2880 contractuels de droit privé. Les efforts de productivité demandés se traduisent par une division par deux des temps alloués aux travaux en forêt par hectare. 180 suppressions de postes prévues dans les 2 ans. Quant aux 7000 fonctionnaires de l'ONF, ce sont 587 postes appelés à disparaître. Le président de l'ONF n'est autre qu'Hervé Guémard, ex-ministre des Finances sous Raffarin, qui, souvenez-vous, avait bénéficié d'un logement de fonction, un duplex de 600 mètres carrés en plein cœur de Paris. L'État payait le loyer de ce monsieur qui se montait à 14 400 euros par mois. Cela avait provoqué un scandale et contraint Guémard à la démission, car il était loin d'être SDF. Possédait au contraire plusieurs appartements et maisons dans un logement de 200 mètres carrés en plein Paris. Toujours est-il que ce politicien de droite n'a pas eu à souffrir de problèmes de reclassement en perdant son emploi. Il est donc aujourd'hui président de l'ONF et il est venu à Vesoul au début du mois où il y a défendu une réforme et un plan de réduction des effectifs exécutés à la tronçonneuse. La femme d'Hervé Guémard, elle, a commencé sa carrière avec Chirac, puis dans la haute fonction publique. Elle est maintenant dirigeante de General Electric France et Europe, où elle est chargée de vendre auprès des gouvernements tout ce que General Electric propose. Des turbines, des éoliennes, des systèmes soi-disant intelligents pour optimiser la consommation d'énergie, pour recharger les batteries. Mais ce sont avant tout des projets qui assurent un développement durable, des aides publiques, crédits à la recherche, à l'innovation, très juteux et sans aucune contrepartie pour l'emploi. Le monde de la grande entreprise et de la droite se combine et se ressemble et même se marie. Mais au fond, les dirigeants socialistes qui espèrent revenir au pouvoir tout en promettant eux aussi la rigueur, sous prétexte de rembourser la dette, ont-ils de réelles divergences avec cette droite au pouvoir qui pille les finances publiques pour soutenir les banquiers, les industriels, bref la bourgeoisie, pour qu'elle continue à gagner beaucoup d'argent malgré la crise de son système? Alors là-dessus, je passe la parole à notre camarade Nathalie Arthaud.